Bonsoir à tous. Au nom du CDPNE, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous nature qui est consacré ce soir au documentaire Incroyable Plante. Nous avons le plaisir d'accueillir Céline Malèvre, réalisatrice du documentaire, qui va rester avec nous tout au long de la soirée et avec qui vous pourrez échanger après le documentaire. Je veux remercier Studio Zef, Clémentine Latelier avec nous pour l'enregistrement des échanges après le documentaire ce soir, qui permettra de réaliser un podcast que vous pourrez retrouver sur les canaux de Studio Zef. Et donc Clémentine qui animera aussi le débat ce soir. Avant de lancer la projection, je voulais donner la parole à Astrid Pellieu, qui est là avec nous ce soir, qui représente Centre Sciences. Centre Sciences qui est l'organisme qui coordonne l'organisation de la Fête de la Science en région Centre-Val de Loire. Fête de la Science, c'est dans ce cadre qu'on vous propose ce documentaire ce soir. Donc je lui laisse quelques minutes pour présenter Centre Sciences peut-être, et puis cette Fête de la Science, et ensuite on lancera la projection du documentaire. Voilà, merci beaucoup.
Merci Cécile. Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux, c'est très impressionnant. Merci d'être venus en nombre pour ce premier événement de la Fête de la Science en Loire-et-Cher. La Fête de la Science, c'est quoi? C'est un événement qui est organisé tous les ans depuis une trentaine d'années, dans les premières quinzaines du mois d'octobre. Donc cette année, du 3 au 13 octobre, vous avez une programmation qui est réalisée autour de la Fête de la Science sur un thème choisi chaque année, un thème différent. Et cette année, c'est l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est beaucoup de choses. On parle beaucoup de l'intelligence humaine, bien sûr, beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle, l'intelligence des machines, mais on n'oublie pas tout ce qui est l'intelligence animale, et on va le voir aussi aujourd'hui avec le documentaire. Le monde végétal aussi a beaucoup de choses à dire sur cette grande thématique de l'intelligence, et donc c'est dans ce cadre en effet que la Fête de la Science cette année est organisée autour des intelligences, et aujourd'hui, ce soir, c'est le premier événement, comme je vous le disais, pour le Loir-et-Cher. Je vous invite à regarder la programmation pour retrouver les autres événements pendant ces 10 jours de fête. Il y en a beaucoup sur Blois, mais il n'y en a pas que sur Blois. Il y en a aussi sur Vendôme, il y en a sur Vineuil. Donc n'hésitez pas à regarder la programmation. Et comme le disait donc Cécile, Centre Sciences, dont je fais partie, est l'association qui coordonne cette Fête de la Science pour le ministère, parce que c'est un événement qui est organisé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le but étant de vous permettre de vous mettre en relation avec le monde de la science, avec le monde de la recherche, par différents événements comme la Fête de la Science, mais pas que. Donc pour terminer, je vous invite à regarder régulièrement un site internet que Centre Sciences gère, qui s'appelle Écosciences. C'est justement pour faire écho aux sciences. Vous allez sur le site Écosciences Centre-Val de Loire et vous allez trouver plein d'informations sur la science, sur la culture scientifique et notamment un agenda en ligne où vous pourrez retrouver tous les événements qui sont organisés en région autour de la science, que ce soit en environnement, que ce soit en sciences sociales, que ce soit en mathématiques, en physique, etc. N'ayez pas peur d'y aller, il y a beaucoup de choses qui y sont présentes sur beaucoup de domaines scientifiques différents. Je vais m'arrêter ici et on va commencer la projection du film. Merci beaucoup.
Apparues sur Terre il y a plus de 400 millions d'années, les plantes font partie des premières formes de vie ayant colonisé notre planète. Elles ont contribué à apporter la matière organique nécessaire à la vie d'autres êtres vivants. Elles peuplent presque tous les milieux, dans des conditions parfois extrêmes, grâce à des adaptations impressionnantes. Elles ont évolué en prenant des formes, couleurs, tailles toujours plus originales et mettant en place des techniques de survie ou de défense insolites. Pourtant, je me suis rendu compte que nous les considérons plus pour leur utilité, leur côté esthétique ou comme une partie d'un paysage. Suite aux dernières découvertes, de nombreux débats agitent la communauté scientifique. Les plantes pourraient-elles être capables de communiquer? Seraient-elles dotées d'une forme de conscience, voire d'intelligence? J'ai décidé de mener ma propre enquête autour des incroyables capacités de ce règne végétal.
Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors je lance les discussions, mais l'idée c'est que ce soit un échange. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Bravo déjà pour ce beau documentaire.
Merci.
Tu es réalisatrice de documentaires animaliers à la base. Tu as été formée à ça à l'IFCAM, l'Institut français de formation au cinéma animalier de Minigout. Francophone ou français, je sais.
Francophone.
Oui. Francophone, c'est ça. Qui est située entre Niort et Poitiers. Qu'est-ce qui t'a fait passer du monde animal au végétal pour ce film ?
Alors... L'animal, on va dire que jusqu'à présent, j'ai pas été forcément inspirée pour faire ce qu'on appelle souvent une monographie sur, en gros, une espèce. J'ai pas forcément eu d'inspiration là-dessus. Donc moi, j'ai plus traité des problématiques environnementales pour faire découvrir des milieux et expliquer les interactions qu'il y a avec les espèces et le milieu, etc. L'intérêt aussi de protéger souvent ces milieux. Et puis pour les plantes, c'est venu... du fait que j'ai eu la chance de grandir à la campagne depuis toute petite. Je suis originaire de Sarlat, en Dordogne. Et puis en fait, je passais beaucoup de temps dehors, on va dire, dans les bois, etc. Et je me posais déjà beaucoup de questions en étant toute petite sur l'animal, lui, il va réagir. Si on lui fait mal, il va essayer de s'enfuir, ou nous mordre, ou il va crier, ou il va réagir. Mais une plante, si on lui coupe une feuille ou quoi, elle réagit pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle sent rien ? Voilà. Et du coup, je me suis posé les questions aussi de si elles avaient des moyens de communication entre elles, etc. Voilà. Donc, il y avait un peu déjà ces questions sous-jacentes en étant petite. Et c'est vrai que là, suite au documentaire précédent que j'avais fait, je me suis dit, après tout, il n'y a pas grand-chose qui existe. Enfin, ces questions-là me sont revenues. Et puis, j'ai essayé de me documenter un peu dessus. Et c'est vrai qu'au niveau des ouvrages, il n'y en avait pas forcément énormément. On remonte à il y a... Donc c'était en 2023, oui, c'est ça. Fin 2022, où j'ai déposé un dossier en candidature, quoi. Et puis, en fait, de là, il n'y avait pas forcément énormément d'ouvrages ou de films là-dessus. Et je me suis dit, ça vaudrait le coup d'aller mener une petite investigation pour voir où on en est, justement, sur les questions de... d'intelligence et tout ça, puisqu'il y avait au niveau des ouvrages, des études scientifiques et de quelques livres, il y en avait quand même déjà, mais c'était assez, ça partait un peu dans tous les sens, et donc je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut croire ou pas dans tout ce qui est dit, voilà. Et donc j'ai voulu faire ce film pour faire un peu d'investigation, et puis c'est un nouvel exercice aussi, quoi, les plantes, c'est pas comme un animal, ça change.
D'un point de vue cinématographique, qu'est-ce que tu peux nous parler de... Voilà, qu'est-ce que ça t'a appris sur le plan vraiment de la prise de vue, notamment sur ton métier de documentariste, mais le fait de filmer des plantes, comme tu le dis au début du film, où on a plein de préjugés dessus, qui sont sans âme, immobiles. Qu'est-ce que ça t'a appris cinématographiquement, parlons ?
Alors, c'est pas forcément évident, du coup, de filmer une plante. Alors, l'avantage, c'est qu'elle ne s'enfuit pas en courant, etc., bien sûr, contrairement aux animaux, et qu'elle ne bouge pas, donc on est sûr de pouvoir la filmer jour après jour. Mais par contre, c'est pas forcément évident de mettre en valeur dans un cadre, par exemple, un arbre, quoi. Donc on se demande à quelle distance on se met, sous quel angle, etc., et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de pouvoir le valoriser, et puis... lui donner un peu comme du relief, jouer sur des couches, entre guillemets. C'est pas forcément toujours évident, voilà. Après, j'ai eu deux super techniciens avec moi. Alors, je dis techniciens, mais ils sont réalisateurs aussi. Voilà, ils ont fait la même école que moi. Donc, Rémi Rapp et Marie-Élise Tang, qui m'a énormément aidée sur le film, Marie, sur toutes les étapes. Et en fait, eux, ils ont une patte et ils arrivent à tout sublimer, en fait. Et donc, quand je vois leurs plans à chaque fois dans le film, je suis « Ah, c'est beau hein. !» Voilà, et Rémi a notamment fait tout ce qu'on appelle les time-lapse, c'est-à-dire les vidéos en accéléré pour les plantes. Et ça, c'était une technique particulière, on va dire, et c'est lui qui s'est chargé de tout ça, parce que moi, j'avais pas les moyens à ce moment-là, parce que c'est quand même une petite structure à mettre en place. Puisqu'on ne peut pas filmer ça dehors en continu, puisqu'il y a les cycles jour-nuit, etc. Donc il faut filmer ça en intérieur, donc il faut monter ce qu'on appelle un studio. Donc il faut souvent que ce soit une pièce qui soit condamnée, ou alors monter une sorte de structure qui calfeutre complètement la lumière, pour avoir des lumières allumées en continu, et qui prennent des photos à intervalles réguliers en continu de la plante. Et ainsi, la plante, après en passant tout ça dans un logiciel, et en l'accélérant, on voit la plante qui pousse. Mais ça demande une certaine infrastructure et puis d'y passer plusieurs semaines.
On va donner la parole au public. On va commencer pour les questions pour toi, Céline. Et puis après, on accueillera Myrtille du CDPNE pour le côté aussi plus local et l'action du CDPNE dans le local. Qui veut se lancer pour une première question?
Alors, savoir s'il y a eu des tests associés avec de l'électroculture. On a eu une petite présentation de la musique. Et l'incidence de la musique par rapport aux plantes, mais est-ce que associé à de l'électroculture, ça a été étudié?
Alors, qu'est-ce que vous appelez l'électroculture du coup? Parce que j'avoue que c'est un peu flou pour moi.
C'est mis en œuvre au potager extraordinaire du côté de Poitiers, si je me souviens bien. C'est une technique qui est très ancienne mais qui n'a pas été mise en avant, et c'est ce qui permet de récupérer l'électricité électrostatique on va dire, et de la faire entrer dans le sol et voir que potentiellement il y aurait des plantes des flux qui permettraient aux plantes de pousser mieux.
Alors j'avoue que j'ai pas vu passer ce genre d'études quand j'ai fait mes recherches pour le film. Ouais. Après, j'y ai pas passé non plus 6 mois. Il a fallu aller très vite pour faire ce film. Donc peut-être qu'il y a des études qui existent à ce niveau-là, oui. Ça, c'est possible. D'accord. Je sais que j'allais regarder un petit peu par rapport au son. Est-ce que les plantes peuvent pousser mieux avec certains types de musique? C'est ce qui avait été dit à un moment donné. Mmh. Qui a préféré du rock ou du Mozart à du hard metal ou je sais pas quoi. Peut-être que d'ailleurs c'est pas ça, mais autre chose. Et il y a eu des nouvelles études là-dessus pour le coup, et ils sont revenus un peu sur tout ça. Voilà. Mais sur l'électroculture comme ça, je ne sais pas. Ça pourrait valoir le coup d'ailleurs de poser la question justement à Poitiers. Peut-être qu'eux, ils en sauraient plus à ce niveau-là.
D'accord. Merci.
Désolée. Ou peut-être que ça a été fait depuis. Parce que j'ai pas repris les recherches sur le sujet depuis 2 ans du coup. Donc... peut-être.
Ça me fait penser d'ailleurs à la façon dont tu as pris contact avec tous les intervenants qu'on voit dans le film. Comment toi-même tu as développé cette connaissance aussi scientifique, parce que pour faire un tel film, j'imagine que tu t'es beaucoup renseignée. Voilà, comment tu les as découverts, contactés?
Oui, alors non, j'ai pas de bagage scientifique pour le coup, d'un point de vue études, etc. Au niveau des intervenants, et alors comment dire? Pour faire un film, on part d'une idée, voilà, et après on passe par des recherches sur Internet, des livres, voilà, on cherche des pistes qui nous intéressent, on creuse toujours plus, etc. Puis au bout d'un moment, bon, y a des noms qui commencent à ressortir, on essaye d'avoir leur contact, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, et puis après on commence à les contacter par mail, téléphone, on fait quelques échanges comme ça. Et puis s'ils sont ok, on fait. Moi j'ai bien aimé cette stratégie-là sur le dernier film justement. J'ai proposé qu'on fasse une visio à chaque fois pour pouvoir faire connaissance, briser un peu le mur du « je la connais pas, on se connaît pas ». Voilà. Et du coup ça faisait des échanges hyper intéressants, et ça permettait aussi de voir quelles étaient les découvertes les plus récentes qu'ils avaient faites aussi, ou ce sur quoi ils étaient en train de travailler, sur lesquels il n'y avait pas forcément encore de papier de sortie. Leur papier, c'est d'articles scientifiques. Et donc, ça permettait de savoir où ils en étaient et qu'est-ce qu'on pouvait dire d'intéressant dans le film. Et si eux étaient OK pour participer au film, etc. Et ça permettait de briser la glace, du coup, le jour où on arrivait sur le tournage, donc il y avait plein d'échanges comme ça, et le jour où on arrivait sur le tournage, c'était beaucoup plus naturel que quand on s'est jamais vu, et donc c'était mieux aussi en ce sens. Mais après, oui, voilà, c'est beaucoup de lecture, et puis après c'est essayer de se le faire expliquer quand on comprend pas, parce que voilà, on peut pas toujours tout comprendre non plus, surtout quand il est question de points très scientifiques, très pointus. Donc c'est l'occasion justement de pouvoir en parler avec eux et qu'ils nous expliquent en commençant déjà à faire de la vulgarisation scientifique. Et tout en leur rappelant, moi les films que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas des documentaires scientifiques, c'est des documentaires comme ce que vous avez vu, donc qu'on appelle de vulgarisation scientifique, pour rendre ça accessible au plus grand nombre, quoi. Donc le but, c'est aussi de voir avec eux comment on peut expliquer ça de manière compréhensible par tout un chacun. Voilà.
Est-ce que dans le public, il y a des choses que vous n'avez quand même pas compris, des séquences peut-être des moments du film qui sont restés un peu nébuleux.
Donc la question, c'est donc si les champignons sont arrivés avant les plantes ou a priori en tout cas en même temps. Alors ils ont découvert, alors j'ai pas regardé vraiment l'article et j'ai pas retenu forcément les dates précises, mais en tout cas ils ont découvert des fossiles de champignons qui remontaient à bien plus loin que ce qu'on pensait initialement. Donc oui, eux, ils font partie parmi les plus lointains ancêtres qui ont commencé à coloniser la Terre, quoi. Donc ils sont vraiment là depuis des millions d'années aussi, quoi. Et donc ce qu'il expliquait en effet, c'est que à la base, donc les plantes, elles, c'était plutôt aquatique. Et puis au moment où elles ont voulu coloniser la Terre, il dit il n'y a pas de sol. Il n'y avait pas de sol à ce moment-là. Parce que le sol, bon, je vais peut-être dire aussi des bêtises, mais il est constitué en tout cas en partie, par la chute des feuilles, etc., qui créait de l'humus et donc ce fameux sol, cette terre. Et donc, apparemment, si c'était que des roches, etc., c'est les champignons qui ont permis aux plantes de pouvoir, via des sortes de symbioses, justement, comme il l'explique, de pouvoir arriver sur le sol et puis commencer à... Enfin, sur la terre ferme, et commencer à coloniser la terre, oui. Donc les champignons sont très vieux et cette symbiose existe depuis très longtemps, a priori, oui. Alors, c'est pas tout récent non plus, c'est pas tout nouveau. Hein. Il y avait notamment Darwin qui avait étudié les plantes et qui avait fait des... Oui, je dis pas de bêtises, c'est Darwin, qui avait fait des super ouvrages là-dessus. Et notamment, à peu près dans les mêmes temps, avec la motricité des plantes, quoi. Donc le fait qu'il s'était rendu compte que les plantes bougeaient à une autre échelle que nous. Mais voilà, donc c'est pas nouveau, c'est juste qu'il y a eu un désintérêt, en fait, et donc que très peu de monde s'y intéressait. Sauf qu'avec les découvertes qui se font aujourd'hui, et toutes ces nouvelles questions qui se posent, je pense qu'on en est qu'au balbutiement, oui. Dans tous les domaines, on va dire. Puisque bon, la pharmacopée, tout ça, ça y est, maintenant c'est bien connu, même s'il y a encore des choses à découvrir, certainement, enfin, c'est sûr. Mais après, même pour nos villes, pour tout ce qui est ingénierie, pour tout ce qui est énergie, pour tout ce qui est aussi bien-être, ils font beaucoup de recherches à ce niveau-là pour même s'inspirer des plantes pour nos villes, pour apporter des meilleures conditions de vie dans tous les domaines. Et sur le fonctionnement des plantes en elles-mêmes, oui, je pense que maintenant, là, ça y est, c'est lancé. Je pense que d'ici 10 ans, à mon avis, il y aura eu un changement assez radical sur notre vision des plantes et puis notre rapport à elles à travers tout ce qui aura été découvert, oui. Sur les émotions, alors... je pense qu'il y a des... Oui, il y en a qui s'y intéressent, ça, je pense que c'est certain. Après, est-ce qu'il y a eu des choses de publiées et des choses qui soient reconnues par toute la communauté scientifique? Ça peut-être pas, voilà. Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et en fait, il y a plusieurs écoles, on va dire. C'est souvent des mondes qui se confrontent, en fait. C'est ce qui crée des grosses polémiques, etc. Quoi, voilà. Donc en fait, il y a... la communauté scientifique qui se fait valider par ses pairs, etc., avec des études très précises, et la moindre molécule qui aurait pu rentrer dans le process fait que tout est à mettre à la poubelle. Voilà, donc ils sont très... Bah pour le coup, on peut dire cartésiens, hein, y a pas de souci. Voilà. Et puis après, il y a d'autres scientifiques qui font des études, mais qui sont aux yeux des autres scientifiques, du coup, où c'est pas assez sérieux, en fait. Voilà. Donc, pour le coup... Là, sur les émotions, c'est un peu difficile à dire, et d'autant plus que, en fait, là, de suite, on va faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire projeter ce que nous, humains, on est, ce qu'on ressent, et notre vision des choses du monde sur les plantes. Or, elles ont un autre fonctionnement. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles ont un système de dissociation entre leur propre corps, on va dire, et un voisin. Et du coup, est-ce que ce voisin-là, c'est plutôt mon allié, entre guillemets? Ou est-ce que c'est plutôt une sorte d'ennemi, entre guillemets, qui va venir me ponctionner mes ressources et à qui il va peut-être falloir que je donne des toxines, des choses que je mette dans le sol ou par des molécules pour essayer de l'éradiquer, quoi. Ça, c'est sûr qu'elles le font, oui. Elles savent distinguer par rapport aux autres et elles ont des stratégies par rapport aux autres, oui. Voilà. Après, ce qui se disait aussi pour revenir sur les plantes qui se laissent mourir, comme vous le disiez, si leur compagnon humain n'était plus là. Ça, c'est pareil, il y avait eu une étude de fait, en tout cas, sur le fait que si on parlait gentiment à une plante, elle avait tendance à mieux pousser. Et si on l'insultait, elle avait tendance à, au contraire, donc ça. Et a priori, ça ressortait assez radicalement comme ça. Voilà. Donc après, encore une fois, il faudrait avoir l'étude, voir qui l'a fait, nani, nana, est-ce que c'est vraiment validé ou pas. Mais voilà, il y a des choses qui se font sur ça aussi. Voilà. Et sur aussi la question de la douleur et toutes ces choses-là.
Tu parlais d'anthropomorphisme, c'est ce qu'on retrouve dans chacun des discours de tes intervenants, c'est l'idée de, un peu de changer de façon de penser vis-à-vis du monde végétal et de ne pas appliquer notre modèle humain à nous quand on l'étudie et quand aussi on fait de la médiation autour et repenser aussi notre système de médiation aussi.
Oui, c'est ça, et c'est là où c'est complexe, parce que d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut décrire ce qu'elles font?
Alors qu'on est aux prémices des découvertes.
Voilà, et c'est compliqué, parce que là, comme je disais, entre guillemets, allié ou ennemi, c'est un terme qui est, somme toute, en rapport à l'humain, quoi, en fait. Donc, c'est compliqué, quoi. Et à la fois, pour pouvoir l'expliquer, c'est compliqué, donc il faut qu'on trouve... voilà, ou alors bien préciser, attention, c'est pas... voilà, faut pas le voir comme nous, humains, etc. Et après, sinon, il y a... C'est ce que j'essayais de dire dans le film aussi, mais sur toute la question de communication, d'intelligence et de conscience, pourquoi ça pose problème ? Bah parce qu'il y a plein de définitions. Et c'est sûr que si on prend les définitions purement humaines, il y a une différence avec les plantes. Mais souvent, elle est infime, en fait. Et par contre, quand on prend d'autres définitions, mais ça s'applique complètement. Oui, les plantes, elles ont une conscience. Oui, les plantes, elles ont une intelligence. Et oui, les plantes, elles ont, elles communiquent. Voilà. Mais ça se joue sur quelques mots. Et donc peut-être qu'il est temps de repenser nos définitions aussi de ces mots-là ou trouver des nouveaux mots pour les plantes. Voilà.
Je rebondis sur ce que vous disiez entre alliés et ennemis, là. Vous avez un documentaire là, qui est assez idyllique sur la nature et tout. On voit beaucoup de... plutôt de choses qui concernent l'association, mais dans la nature, il y a aussi beaucoup de compétition. Et ça, vous ne l'avez pas beaucoup illustré, et j'en veux pour preuve ce qui se passe, ne serait-ce que sur la Loire, avec la Jussy, par exemple, ou la régénération de la nature après des feux de forêt, par exemple. Donc c'est un autre documentaire à faire, peut-être, mais c'est tout aussi important que l'association. Quoi. Il y a des grandes règles dans la nature, c'est voilà, croître et se reproduire. Et là, vous avez illustré qu'un côté, mais il y a plein de stratégies par rapport à la compétition.
Exactement, oui. Après, voilà, c'est comme vous dites, hein, ça ferait un documentaire à part entière. Donc voilà. Et là, c'est vrai que nous, on était limité sur un format de 52 minutes, c'était ce qui était prévu. Et déjà, parler de toutes ces choses-là, en fait, on a un peu survolé. Parce que bon, j'avais plus de 15 heures d'interview avec mes intervenants. Donc, il y en a beaucoup des choses que j'ai encore dans les disques durs que je pourrais sortir, quoi. Mais la thématique est tellement vaste et il y a tellement de choses à dire, justement, sur le monde végétal que... Mais vous avez raison, oui, ça serait intéressant, justement, de faire pourquoi pas un documentaire compétition et au contraire alliance, entre guillemets, entraide.
Oui, j'ai trouvé que vous étiez un peu pessimiste sur la méconnaissance des plantes. Je pense qu'il y a un gros intérêt, parce qu'on essaye actuellement de revégétaliser les villes, donc, et ça passe par des meilleures connaissances des plantes. Là, elles peuvent pousser, comment elles peuvent cohabiter. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je suis plutôt optimiste, les gens s'intéressent beaucoup plus aux plantes qu'à une époque. Après, il y a un autre sujet un peu à la mode, c'est les gens qui vont en forêt pour recevoir des molécules bénéfiques, paraît-il. Ou ceux qui embrassent les arbres. Donc il y a beaucoup de sujets. Je pense que petit à petit, les gens vont découvrir les propriétés des plantes. Mais c'est vrai que les mycorhizes, on en parle quand même beaucoup depuis 3-4 ans. Je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui est connu, y compris par les agriculteurs d'ailleurs. Puisque l'appauvrissement des sols, aujourd'hui, c'est quand on fait les traitements de sol, que les sols s'appauvrissent. Il y a une formule qui dit pour nourrir les plantes, il faut déjà nourrir le sol. Donc, on revient sur les mycorhizes et les champignons. C'était juste un commentaire.
Oui, bah, y a, comment dire ? Si on replace ce film dans le contexte d'il y a 2 ans, au moment où il est sorti, comme je disais, il n'y en avait pas des masses, hein, des films sur le sujet. Et j'étais un peu dégoûtée, j'avoue. Je suis peut-être coupable, parce que quand mon film est sorti, 2 mois après, il y en a eu plein qui sont sortis. Donc, Je n'ai pas été la seule à avoir cette idée-là. Et depuis, il y a toute une nouvelle vague, un peu à la mode aussi, qui s'est lancée en même temps, en fait. Et donc, oui, il y a beaucoup plus de communication autour de tout ça. Et le public, en fait, s'y intéresse. Donc, du coup, il y a beaucoup plus de communication aussi par des médias, par des réalisateurs qui se disent « Tiens, je vais faire un film aussi sur le sujet », des écrivains, etc. Tout le monde, voilà. Sachant que le public s'y intéresse, a montré qu'il s'y intéressait, ça lance aussi beaucoup plus d'ouvrages et donc beaucoup plus de vulgarisation. Et c'est pour ça que maintenant, c'est quand même plus connu depuis 2 ans. Ouais. C'est vrai que je vois beaucoup de choses qui sortent. Et tant mieux.
Après, c'était plus une question ouverte, c'est vraiment par pure curiosité, parce que votre dernière phrase, ça faisait quand même assez réfléchir dans le documentaire, c'était, il me semble, vivre avec les plantes. Et moi, de par mes bagages, j'ai fait une formation agricole, et ça m'a fait écho au bien-être animal, et je me suis dit, est-ce que dans nos futurs modes de production, finalement, il n'y aurait pas ce bien-être végétal de la plante ?
C'était le but aussi dans la réflexion de ce film, sur la fin, c'est de poser la question d'éthique, en effet. C'est-à-dire se poser la question de quel rapport on veut avoir avec les plantes. Et sachant que, justement, on commence à découvrir que toute la sensibilité qu'elles ont, etc., peut-être se poser un peu plus la question de... déjà, tout un chacun. C'est-à-dire, bien sûr, dans le monde agricole, de l'agroforesterie, etc., il peut y avoir des questions à se poser, bien sûr. Et je pense qu'on ira dans un meilleur sens si on fait plus attention aussi envers le végétal. Et puis, tout un chacun aussi. Si on a un arbre dans notre jardin et qu'on veut le couper pour le couper, alors qu'il nous embête pas, qu'il menace pas de tomber, etc. et tout, c'est un peu dommage. Il a peut-être 40 ou 50 ans, cet arbre. Il était là peut-être même avant nous. Pourquoi on le couperait et on le laisserait pas vivre s'il menace rien, quoi. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser tous et, et oui, la question d'éthique, c'est une question, je pense que maintenant, il va falloir qu'on se pose par rapport au végétal, oui. D'ailleurs, Quentin Guernot, qui est le philosophe dans le film, il a participé à un colloque, je crois que c'est ça le bon terme, autour de l'éthique du végétal, justement, autour du végétal. Et c'était l'année dernière, et il devait sortir un condensé avec tout ce qui a été dit en conférence, avec toutes les nouvelles visions et recherches autour de tout ça. Et c'est très large du coup, puisque ça peut être de la philosophie, mais ça peut être aussi des scientifiques qui viennent apporter des réponses concrètes sur tout ça.
Peut-être qu'on peut donner la parole à Myrtille. Donc Myrtille, qui est chargée d'études biodiversité au CDPNE. Peut-être pour commencer, qu'est-ce qui a fait le plus écho pour toi dans ce film sur ton travail de terrain ?
Donc, bonsoir à tous. Ce qui a fait le plus écho, il y a eu plusieurs choses, parce que... Si on prend le travail qu'on réalise, en tout cas au CDPNE, ça recoupe au moins 3 de nos activités principales. De mon côté, je suis au sein du pôle études du CDPNE, donc plutôt l'expertise et donc la connaissance sur la flore, qui est indispensable pour pouvoir la protéger. Et on ne peut pas protéger notre environnement si on ne sait pas de quoi elle est constituée. Et d'autre part, plus la partie, peut-être, vulgarisation. Mais là, c'était plus au travers des intervenants. J'ai trouvé que leurs propos étaient quand même assez clairs sur des sujets qui étaient quand même complexes, notamment sur les mycorhizes. Donc, je trouve qu'on ne pouvait pas mieux l'expliquer que... je ne sais plus son prénom.
Francis Martin.
Francis Martin. Donc voilà, toutes ces parties-là. Et puis ensuite, il y a eu un petit zoom sur le végétal local. Donc ça, c'est un des gros chantiers du CDPNE depuis quelques années maintenant, qui est de développer, ou en tout cas de faciliter le développement d'une filière végétale locale à l'échelle du département, donc avec le conseil départemental, qui est aussi très moteur dans ce projet, et avec notre tissu local, donc avec les lycées horticoles, agricoles, qui sont assez actifs sur notre département. Donc essayer de faire un petit peu... une petite dynamique entre tous ces acteurs pour pouvoir développer le végétal local, qui pour nous est une des solutions face aux gros changements auxquels on fait face actuellement, que ce soit, je ne sais pas, revégétaliser nos environnements urbains, citadins, ou que ce soit pour restaurer des milieux comme on l'a vu dans la vidéo avec la personne du conservatoire. Donc voilà, nous on s'inscrit dans ce genre de projet, il y en a encore beaucoup d'autres, mais comme les atlas biodiversité, où on participe en tout cas à la connaissance et on essaye d'impliquer et de faire passer à l'action les acteurs du territoire, que ce soit le grand public, les élus locaux. Donc voilà, une végétale, essayer de leur mettre un petit peu au cœur des discussions. Et au final, on se rend compte que c'est des choses qui intéressent beaucoup les gens et que c'est parfois juste un problème de connaissance qui peut limiter un petit peu les actions. Et puis une fois que l'information est passée, on a aussi des très belles idées qui sortent de personnes qui se sentaient un peu démunies face à ces sujets-là. Donc voilà.
Sur le terrain, très concrètement, c'est quoi ton métier ? Quand vous faites des relevés, on entend souvent ce mot-là, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors moi, j'ai un super métier qui est de me promener sur... pas toujours dans des endroits... Enfin, on n'est pas toujours en forêt, sur des sites magnifiques, hein, ça faut... Pas toujours, mais on y est quand même, donc on a de la chance.
Je le rappelle, le CDPNE gère deux réserves naturelles, oui, dans le Loir-et-Cher.
Oui, une nationale qui est au nord du... Enfin, côté nord de la Loire, et celle qui est régionale géologique, qui est à Pont-de-Voix, qui est au sud du département, enfin sud de la Loire. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et du coup, sur le terrain, et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer d'améliorer la connaissance, au final, sur les sites, que ce soit pour des visées conservation de sites, donc avec nos collègues gestionnaires des sites, ou que ce soit pour aménager. Donc moi, il y a une grosse partie de mon travail qui est plutôt de mieux connaître un site pour pouvoir mieux conseiller les aménageurs.
En lien avec les collectivités locales.
Collectivités, entreprises privées. Voilà, quelqu'un qui veut, construire, même un agriculteur qui veut construire un bâtiment, il peut avoir aussi des contraintes réglementaires et nous, on l'accompagne aussi pour l'alerter sur ces contraintes et trouver le meilleur compromis pour intégrer au mieux la biodiversité et donc aussi le végétal dans son projet d'aménagement. Voilà. Donc ça passe par une phase de terrain et des traitements, puis parfois de la vulgarisation en réunion ou autre auprès des acteurs.
Est-ce que vous avez des questions pour Myrtille ?
Au vu de tout ce qui s'est dit sur les plantes aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce qu'on doit penser ? Alors finalement, moi, ça me remet un peu en doute sur les plantes invasives.
Eh bien, il l'a très bien dit. Il l'a un petit peu évoqué dans le documentaire, Monsieur Toby, c'est ça ? Qui parlait du problème du déséquilibre. Et au final, l'invasive, le problème, il est là. C'est qu'elle va déséquilibrer un écosystème du fait de son pouvoir de colonisation. Elle va complètement bouleverser la diversité d'espèces, même parfois la physionomie, la structure, la composition d'un écosystème. Et donc, on va se retrouver avec des habitats qu'on ne retrouve plus et des espèces qui vont avoir beaucoup moins... Enfin, en fait, on parle de niche écologique, mais une espèce invasive va avoir une tolérance très large. Donc, elle va pouvoir coloniser beaucoup plus facilement qu'une espèce qui va être vraiment très spécifique sur... il lui faut tant de pluie, enfin d'humidité, tant de... On prend l'acacia, on le retrouve partout, que ce soit en milieu humide, plutôt séchant. Donc on dit que maintenant, elle est naturalisée parce qu'il y en a tellement partout que lutter contre, c'est peine perdue. Mais il y a encore des espèces pour lesquelles on peut essayer de faire quelque chose. Et tout l'enjeu est de garder en fait toujours plus de diversité, parce que l'équilibre, il se base aussi là-dessus. Plus il y a de diversité, plus il y a de résilience. Si on se retrouve avec que des milieux complètement homogènes, on va forcément avoir un souci à un moment ou à un autre. Donc oui, je pense que l'invasive, en fait, le problème, c'est le déséquilibre qu'elle peut engendrer. Alors sur les invasives, on participe notamment à des comités techniques pour l'ambroisie, par exemple, aussi avec l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, parce qu'il y a un problème avec l'ambroisie, elle est très allergisante, je ne sais plus. Et donc ça pose des questions de santé publique, hein, de salubrité, si je ne dis pas de bêtises. Et nous, on participe à ça pour peut-être aussi mettre des alertes si on le rencontre, parce qu'on est beaucoup sur le terrain, donc on peut remonter l'information. Et ils ont déployé des systèmes, ça rentre un peu dans le technique, mais des outils où... on alerte, il y a quelqu'un, un délégué départemental qui peut ensuite, voire communal, qui peut ensuite agir directement pour éradiquer en tout cas l'individu vu. Bon, sur la Loire, c'est un peu problématique parce que en fait, tous les cours d'eau, on appelle ça des corridors écologiques, donc c'est du pain béni pour des espèces très colonisatrices. Mais globalement, on travaille, oui, sur donc, le végétal, en tout cas, plutôt sur de l'alerte ou de la sensibilisation auprès des élus ou des entreprises privées, avec parfois des mesures correctives ou quoi, où on va leur dire, voilà, peut-être faire un chantier d'arrachage de, je sais pas, le raisin d'Amérique. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, ça fait des grandes grappes, ça ressemble à du raisin, c'est toxique, faut pas le manger la baie d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Et sinon, on a aussi des actions, mais plus sur la partie plus animale, en tout cas, où on a un gros programme sur la grenouille taureau. Voilà, où on participe à la lutte contre l'espèce qui a apparemment a bien fonctionné parce qu'on la trouve plus. Mais oui, notre rôle est vraiment de sensibiliser, alerter, et puis toujours d'améliorer la connaissance. Donc voilà.
Qui finance?
Alors moi, je ne suis pas une pro des financeurs, mais globalement, vous voulez dire les activités du CDPNE qui financent? Eh ben, on a une partie déjà qui est financée parce qu'on fait de l'étude auprès de privés et de collectivités. Donc là, on agit comme prestataire, on va dire. Et après, on va avoir des financeurs plus sur des sujets spécifiques. Déjà du fait d'avoir deux réserves naturelles où on a, qui sont aussi des ENS, espaces naturels sensibles. Donc on va avoir des financements du département et de la région et de l'État globalement. Ouais, voilà. Donc on a une partie plutôt de l'étude privée ou prestation directe, publique, ouais. Et après c'est du financement sur des projets spécifiques où on demande des financements sur tel sujet à des financeurs publics, voire privés parfois, mais plus rarement quand même.
S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Vous pouvez continuer à discuter avec Céline si vous n'êtes pas encore trop fatiguée après... Voilà, après la fin de la séance. À la sortie, vous retrouverez les DVD des documentaires que Céline Malèvre a pu réaliser, le documentaire de ce soir et deux autres documentaires, l'un sur la pollution lumineuse, hein, c'est ça Céline?
Oui.
Et un autre...
Sur les tourbières.
Pour sur découvrir les tourbières.
Le milieu des tourbières.
Voilà. Le programme de la fête de la science aussi, dont Astrid vous a parlé tout à l'heure, et le programme des rendez-vous nature du CDPNE. Si vous ne l'avez pas, il faut le récupérer absolument. Bonne soirée encore, merci Céline de ta présence.
Merci à vous pour l'accueil et à tous. Et puis merci au public aussi pour les questions et tout le reste.
Bonne soirée.
Bonne soirée.